France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Qu'est-ce que les Lumières? C'est la question que nous posons dans notre série de cette semaine. Et aujourd'hui, nous examinons la réponse qu'a donnée à cette question le philosophe allemand Emmanuel Kant en 1784. Kant n'est pas le seul à avoir répondu à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» posée à l'époque par une revue berlinoise, le Berlinische Monatsschrift. La réponse du philosophe Moses Mendelssohn a aussi été publiée. Ce débat, en vérité, occupait tout un cercle de fonctionnaires, d'écrivains, de philosophes dans la capitale prussienne. Le texte de Kant est particulièrement saisissant, en raison du paradoxe, voire de l'impasse qui est son point de départ. Les Lumières, dit Kant, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle ou de minorité qui consiste à se laisser guider par d'autres au lieu de penser par soi-même, et ce, alors même que l'on dispose d'un entendement qui fonctionne très bien. D'où un fameux impératif en latin, lancé dès les premières lignes du texte, « Sapere aude », « Ose penser par toi-même ». Mais la suite montre que la volonté rencontre des obstacles de taille et c'est bien cela le problème. Beaucoup d'hommes sont entravés, dit Kant, par une paresse, une lâcheté, un manque de résolution et de courage, je cite encore, et ces entraves sont puissantes, socialement installées, créant un redoutable confort. La plupart des individus ne pourront pas entrer dans les Lumières par leur seule force intérieure. Alors quoi? Que faire? Ce problème conduit Kant à renverser une opinion commune. On croit souvent qu'il faut attendre qu'un peuple soit éclairé pour lui donner la liberté d'expression, la liberté de presse en particulier, mais non, dit-il, le processus est inverse, c'est en laissant un peuple s'exprimer en public, devenir un public, comme il dit, qu'il s'éclairera, presque inévitablement, affirme-t-il. Ce texte est donc à beaucoup d'égards un appel à Frédéric II de Prusse, dit le Grand, prince qui se prétendait éclairé pour qu'il abolisse la censure, à l'instar par exemple de la Grande-Bretagne depuis un siècle. Mais l'argumentation kantienne est subtile, non dénuée d'enjeux sensibles, voire d'inquiétudes larvées. Nos trois invités vont, si j'ose dire, les éclairer pour nous. Bonjour Elena Parten.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maîtresse de conférences à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris, spécialiste de l'œuvre d'Emmanuel Kant. Bonjour Antoine Lilti.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de l'époque des Lumières, professeur au Collège de France. Et bonjour Frédéric Gros.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à Sciences Po Paris, très bon connaisseur notamment de l'œuvre de Michel Foucault, penseur du XXe siècle, qui s'est intéressé de près à ce texte de Kant. Nous ferons droit à ce commentaire de Foucault. Je précise que tous vos travaux sont détaillés sur le site de notre émission. Tout de suite, un extrait des premiers paragraphes du texte de Kant, réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?»
Il est difficile à chaque homme pris individuellement de s'arracher à l'état de tutelle devenu, pour ainsi dire, une nature. Il y a même pris goût, et il est pour le moment vraiment dans l'incapacité de se servir de son propre entendement parce qu'on ne l'a jamais laissé s'y essayer. Aussi, peu nombreux sont ceux qui ont réussi à se dépêtrer par le propre travail de leur esprit de l'état de tutelle et à marcher malgré tout d'un pas assuré. Mais qu'un public s'éclaire lui-même est plus probable. Cela est même inévitable pourvu qu'on lui accorde la liberté. Car il se trouvera toujours quelques êtres pensant par eux-mêmes, même parmi les tuteurs en exercice du grand nombre, pour rejeter eux-mêmes le joug de l'état de tutelle et pour propager ensuite autour d'eux l'esprit d'une appréciation raisonnable de la propre valeur et de la vocation de tout homme à penser par soi-même. Pour ces Lumières, il n'est rien requis d'autre que la liberté, et la plus inoffensive parmi tout ce qu'on nomme liberté, à savoir celle de faire un usage public de sa raison sous tous les rapports.
Elena Parten, pourquoi dans ce texte de 1784, Kant est-il si confiant dans le fait que, en ayant l'habitude de s'exprimer librement, alors même que tout le monde n'est pas éclairé, eh bien, un peuple ainsi devenu public s'éclairera bien plus vite que si on, je veux dire en masse, que si on comptait sur la force intérieure de chacun des individus qui le composent.
Alors en effet, il met l'accent sur la distinction entre le niveau individuel et le niveau collectif dans l'expansion des Lumières. Et au niveau individuel, il montre que les possibilités d'émancipation sont limitées en réalité parce que on a intériorisé l'obéissance à des tutelles et parce qu'on s'y complaît. Comme vous l'avez dit très bien, il y a une question de confort, il y a une complaisance. À l'inverse, au niveau collectif, il est plus facile de s'émanciper qu'au niveau individuel, tout simplement parce qu'il y a un effet de diffusion publique. C'est-à-dire, si on laisse s'exprimer publiquement quelques individus qui auront eu le courage, la force de volonté de penser par eux-mêmes, il y aura un effet d'entraînement, de dissémination qui donnera d'autres habitudes au peuple et à chaque
individu.
C'est
le statut de l'exemple, là, qui est important. L'importance de l'exemple des autres compte aussi parfois dans le domaine moral pour Kant. Là, il s'agit plutôt du domaine sociopolitique.
Tout à fait.
On admire des gens qui osent y aller dans l'espace public, même s'ils ne disent pas forcément des choses avec lesquelles on est d'accord. Il y a un courage qui est communicatif.
Bien sûr. Et puis, ça appelle une réponse. C'est-à-dire, il y a toujours une incitation à répondre. Et justement, même dans le cas où on n'est pas d'accord, une incitation à faire une objection, à critiquer, à exprimer son désaccord et donc à rentrer en dialogue avec autrui.
Antoine Lilti, vous pensez qu'en Prusse, beaucoup pensent comme Kant, et vous pensez aussi que, pensez-vous plutôt, que c'est vraiment un texte qui a un objectif assez précis, au-delà des débats philosophiques, qui est d'obtenir la fin de la censure en Prusse?
Oui, c'est certain. En tout cas, il y a un milieu intellectuel en Prusse à ce moment-là, et notamment à Berlin, qui est en pleine effervescence. Et ce texte ne vient pas de nulle part. Il s'inscrit dans un débat qui a été lancé effectivement dans un journal berlinois, que vous avez cité, au début des années, en 1784, et qui a une origine, en fait, c'est la question religieuse. C'est la question, au fond, de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sécularisation, puisqu'en fait, c'est un pasteur, le pasteur Zollner, qui a posé la question dans ce journal en faisant une sorte d'appel justement au débat public. Il a dit, mais c'est quoi ces lumières dont tout le monde parle? Tout le monde nous parle de l'Aufklärung. Et en fait, l'enjeu, c'était la question, est-ce qu'on peut suspendre la dimension religieuse du mariage? Il dit, mais là, c'est aller trop loin, peut-être, c'est trop radical. Et donc, il pose cette question. Et il va y avoir beaucoup de réponses, il n'y a pas que le texte de Kant. Et Kant va s'appuyer là-dessus. Le texte, on l'oublie, est très largement tourné sur les questions religieuses. En fait, c'est vraiment la question de la liberté de penser, la liberté d'expression, mais à l'égard des dogmes religieux, ce qui est un enjeu très important. Mais effectivement, il va le tirer vers une réflexion sur l'abolition de la censure, sur le rapport du coup de la liberté d'expression et du pouvoir politique, on va en parler, et puis sur cette idée, il s'inscrit dans un milieu d'effervescence intellectuelle. On est en 1784, donc il y a quand même tout le siècle des Lumières qui est passé par là dans toute l'Europe, et Kant est très au courant, et de revendications de la liberté d'expression qu'on trouve dans de nombreux milieux. Mais Berlin, et notamment l'Allemagne de ces années-là, est effectivement, à la fin du règne de Frédéric II, en pointe dans ces questions.
Est-ce que la liberté d'expression s'est déjà prise de fait, si j'ose dire, même si elle n'est pas toujours et même très rarement accordée de droit, s'est-elle déjà prise dans la sociabilité européenne qui caractérise cette époque du XVIIIe siècle des Lumières?
Alors, dans la sociabilité européenne, c'est très clair. Les membres, par exemple, qui ont lancé ce débat dont je viens de parler, sont réunis dans une sorte de club sociabilité, qui s'appelle la Société du Mercredi, parce que justement, ils se réunissent tous les mercredis pour discuter un peu de ce que sont les Lumières. Et on sait bien que dans toute l'Europe, on a les loges maçonniques, on a des académies, on a des salons. Mais cela reste au niveau des élites intellectuelles et justement dans des espaces de sociabilité. Dès lors qu'on est du côté de la publication, là, on a encore des formes de censure qui sont importantes. Les écrivains peuvent être, ou les philosophes peuvent être menacés. Donc, ils vont toujours très prudemment. Et c'est pour ça que, pour Kant, c'est à la fois très important d'affirmer cette liberté d'expression et en même temps, c'est peut-être un point sur lequel on reviendra,
oui,
il est quand même plus... plus méfiant que ça, c'est-à-dire qu'il c'est pas un pur. D'ailleurs, il dit hein, qu'un public s'éclaire lui-même est probable. Hein, c'est plus probable, mais c'est pas certain.
Mais c'est presque inévitable.
Il dit pas tout à fait ça. Il dit c'est presque certain, mais ensuite il dit un passage qu'on n'a pas entendu, mais juste après le moment où il dit c'est probable, il dit mais attention, il y a un grand danger. Il y a un grand danger parce que avec cette liberté d'expression, il n'est pas du tout sûr justement que le public va suivre avec admiration ces quelques personnes qui ont su penser par eux-mêmes. Parce qu'en fait, ils peuvent aussi, ce public, il peut aussi être encouragé par ceux qui sont restés du côté du préjugé à imposer le silence à ces éclaireurs, à ceux qui ont pu penser par eux-mêmes. Et donc, il dit, là, il y a un danger, c'est qu'au fond, la liberté d'expression puisse être, si ça va trop vite, elle risque d'être une aubaine pour les démagogues, pour tous ceux qui, justement, ne veulent pas que le public s'éclaire. Et c'est là la difficulté, c'est qu'il faudrait que le public soit capable de faire la différence entre ceux qui veulent vraiment l'aider à s'éclairer et ceux qui veulent au contraire le maintenir dans les préjugés. Et c'est pour ça qu'il dit, à plusieurs reprises dans le texte, il dit « Oui, la liberté d'expression, mais doucement, il faut que ce processus par lequel le public va s'éclairer, ça ne peut marcher que si ça va doucement, avec
lentement,
avec des limites, et surtout pas à travers un processus trop rapide ou trop violent.
Mais vous êtes d'accord, on va juste finir sur ce point, sur Kant, puis je poserai la question de l'intérêt que Michel Foucault a porté à ce texte. Elena Parten, il y a plusieurs textes qui évoquent chez Kant la question de comment la masse des gens peuvent raisonner, progresser, en savoir, etc. C'est quand même un texte particulièrement optimiste, non ? Vous ne trouvez pas ? Il y a très peu de réserves. Par exemple, quand il dit « Il suffit de leur donner la liberté de faire un usage public de sa raison sous tous les rapports. » On voit qu'il ne met aucune restriction, alors qu'il en met peut-être dans d'autres. C'est vrai qu'il pense que même si les tuteurs habituels s'expriment, oui, c'est clair qu'il vaut mieux que le public sache à qui faire confiance, mais il a confiance dans le fait que ça va se voir, tout le monde va le voir et ça va marcher. Est-ce que vous sentez cela aussi comme spécialiste des textes de Kant ?
Oui, tout à fait. En réalité, je pense qu'il y a deux polarités chez Kant sur cette thématique. Et Antoine Lilti a parfaitement raison de rappeler aussi les précautions que prend Kant. Parce qu'en réalité, il y a en effet cette polarité très optimiste qui fait que, qui le fait dire dans d'autres textes, que la publicité, le caractère public de l'expression de la pensée est la condition même de la pensée. C'est-à-dire, on ne peut pas penser si la pensée n'est pas publique. Et il s'oppose, par exemple, dans un texte célèbre de la fin de « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» où Spinoza, vous savez, disait que quoi qu'il y ait la censure, quoi que le souverain proclame la censure, il ne pourra jamais nous enlever la liberté intérieure de penser. Et Kant s'y oppose en disant « Mais s'il n'y a pas la possibilité de s'exprimer publiquement, il n'y a aucune liberté de penser. » Donc là, c'est la polarité, comme vous dites, plus radicale, optimiste, etc. Mais il y a une autre polarité que rappelait très bien Antoine Lilti et qui est tout à fait explicite dans le texte de « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» où il dit, certes, il faut penser par soi-même, il faut une expansion des lumières, mais il y a des limites de la raison que la liberté de penser doit respecter. Mmh. Si elle ne respecte pas les limites posées par la raison, s'introduira alors de manière perfide un pouvoir, une tutelle politique qui aboutira à une nouvelle obéissance, à une nouvelle tyrannie. Donc, Kant craint aussi ce qu'il appelle le pôle anarchique de la pensée.
Alors, je pense que une manière de se demander ce qui intéresse Michel Foucault, Frédéric Gros, dans ce texte, c'est peut-être, je parle sous votre contrôle, de rappeler que Foucault s'est souvent intéressé aux médias, d'ailleurs, même s'il peut les critiquer, et au fait que si ce n'est pas la prérogative de quelques-uns, mais si vraiment tout le monde peut s'exprimer, c'est une dynamique positive. Il y a par exemple un entretien avec Christian de la Campagne en 1980, Alors, il est masqué, en fait. Il veut pas donner son identité, mais nous, on sait aujourd'hui que c'est lui. Il est interrogé sur les médias. Et il dit qu'il n'aime pas du tout la critique systématique des médias. Il y a une immense curiosité, je le cite, un besoin, un désir de savoir. On se plaint toujours que les médias bourrent la tête des gens. Il y a de la misanthropie dans cette idée. Je pense que les gens réagissent, dit-il. Plus on veut les convaincre, plus ils s'interrogent. Le problème, ajoute-t-il, c'est de multiplier les canaux, les passerelles, les moyens d'information, les réseaux de télévision et de radio, les journaux. Aujourd'hui, tout cela est bien multiplié, mais à l'époque de Foucault, ça dit quelque chose de lui. La multiplicité, la pluralité, ça peut nous sauver des mots MAUX les plus remarquables du monde médiatique.
Oui, tout à fait. Il y a deux choses que je voulais noter. La première, c'est effectivement cette dimension de prise de parole, c'est-à-dire aller trouver comme condition de la philosophie moins l'écriture de livres que la prise de parole. Et c'est quelque chose qui l'a toujours obsédé, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que prendre la parole publiquement, en public, et cette espèce de passion qu'il avait de ses cours et de donner ses cours au Collège de France, je crois que c'était lié à cette dimension publique qui fait que, mais enfin, même le texte de Kant, vous allez me dire, c'est un texte écrit, mais pour lui, ça relève de la prise de parole. Oui. Il y a la critique de la raison pure, c'est un livre. C'est une prise de parole. C'est-à-dire que il va éviter le espèce de piège pour lui de Derrida entre la parole, l'écriture, etc. C'est vraiment la différence pour lui entre la prise de parole et l'écriture du livre. Et deuxièmement, je crois que ce qui va aller chercher dans ce texte, ou plutôt ce qui le saisit, et ça a été lu dès le début, quand Kant dit oui, au fond, on prend quand même goût à ce que les gens pensent, à ce que d'autres pensent à notre place et nous apportent des vérités toutes construites, qu'il n'y a plus qu'à apprendre et réciter, etc. C'est-à-dire cette manière de dire, par rapport à tout ce qu'on peut apprendre en philo, vous savez, pour penser, pour trouver la vérité, il faut de la méthode, il faut de la rigueur, il faut de l'intuition, il faut de l'intelligence, tout ce que vous voulez. Il y a cette manière de dire, mais attention, il faut d'abord du courage. C'est-à-dire que la condition de la pensée est moins une condition épistémologique. Bien sûr qu'il y a des conditions épistémologiques, mais elles ne doivent pas faire écran à cette condition éthique qui est le courage de ne pas penser forcément comme on pense autrement. Et ce texte, moi, m'a toujours fait penser, ou la lecture de Foucault, à une petite phrase de Wittgenstein qui écrit « Breuer était beaucoup plus intelligent que Freud, virgule, mais Freud avait quand même plus de courage. »
Breuer, avec lequel Freud a travaillé.
Oui, oui, oui. Et donc c'est ça, c'est l'idée d'aller chercher du côté du courage une condition de la vérité. Et au fond, les Lumières, c'est aussi ça, c'est la liberté, ça demande du courage.
Alors, on va bien sûr prolonger cette discussion. Le courage, il faut l'aider en quelque sorte, en créant des espaces où il est possible de parler publiquement. C'est une des logiques profondes du texte. Or, pour ce qui concerne l'usage public de la raison, je l'ai déjà dit, il n'y a pas de restriction. Peut-être juste savoir qu'à certains moments, ce n'est pas possible, parce que nous sommes dans nos tâches professionnelles, rivés à quelque chose que Kant appelle l'usage privé, alors de la raison. Ce qui compte, c'est qu'il y ait quelque part un lieu où l'usage public est possible. Écoutez ce très fameux passage de Kant dans son texte de 1784, « Qu'est-ce que les Lumières ?»
L'usage public de sa raison doit toujours être libre, et il est seul à pouvoir apporter les lumières parmi les hommes. Mais son usage privé peut souvent être très étroitement limité, sans pour autant entraver notablement le progrès des lumières. Je comprends par usage public de sa propre raison celui qu'en fait quelqu'un en tant que savant devant l'ensemble du public qui lit. J'appelle usage privé celui qu'il est permis de faire de sa raison dans une charge civile qui lui a été confiée ou dans ses fonctions. Ainsi, il serait très pernicieux qu'un officier qui reçoit un ordre de ses supérieurs veuille, lorsqu'il est en exercice, ratiociner à voix haute sur le bien fondé ou l'utilité de cet ordre. Il est obligé d'obéir. Mais on ne peut équitablement lui défendre de faire, en tant que savant, des remarques sur les fautes commises dans l'exercice de la guerre et de les soumettre au jugement de son public. Le citoyen ne peut se refuser à payer les impôts dont il est redevable. Une critique déplacée de telles charges, quand il doit lui-même les payer, peut même être punie comme scandale, susceptible de provoquer des actes d'insoumission généralisée. Néanmoins, celui-là même ne contrevient pas au devoir d'un citoyen s'il exprime publiquement, en tant que savant, ses pensées contre l'incongruité ou l'illégitimité de telles impositions.
Il y a encore un troisième exemple donné par Kant d'une charge civile où, pendant son exercice, on ne peut pas dire tout de suite à haute voix tout ce qu'on pense. Nous allons y revenir car c'est un exemple important. Mais tout de suite ajouter que Kant va évoquer bientôt dans le texte le pouvoir politique directement. C'est une interpellation quasi directe du prince éclairé de Prusse, Frédéric II, Frédéric le Grand, auquel il demande la liberté de presse. Écoutez.
Seul celui qui, lui-même éclairé, n'est pas sujet à des peurs chimériques et qui a en même temps à sa disposition une armée nombreuse et bien disciplinée pour maintenir l'ordre public, peut dire ce qu'un État libre ne peut oser dire. Raisonnez autant que vous voulez et sur ce que vous voulez, mais obéissez.
Elena Parthen, Kant nous rappelle que les princes ont peur. Ils ont peur de la liberté d'expression. Ils croient que ça va générer les tumultes, comme disait Machiavel, la désobéissance tous azimuts. Que dit Kant exactement là ?
Il essaye de rassurer Frédéric II. Il essaye de le rassurer, on peut voir les choses comme ça, puisqu'il dit il ne faut pas avoir peur de la presse, il ne faut pas avoir peur de la liberté d'expression, des possibilités séditieuses, de la révolution, etc. Parce que le fait qu'il y ait un usage public de la raison n'entrave pas le fait qu'il y ait un usage privé de la raison. C'est-à-dire, c'est la distinction qu'il a faite dans le texte, l'usage public de la raison, c'est le droit que l'on a de s'exprimer en tant que savant, membre de la communauté nationale ou de la société civile universelle, mais il y a un usage privé de la raison, c'est-à-dire que ces mêmes hommes, en tant qu'ils détiennent tel poste civil, telle charge publique, fonctionnaire, prêtre, on va y revenir, etc., ils doivent obéir, c'est-à-dire assumer ce statut et observer les règles de cette fonction. Donc, c'est une manière de dire, dans l'interpellation à la fin, raisonnez autant que vous voulez, mais obéissez. Donc, le raisonnement libre n'entrave pas cette possibilité d'obéir, quand même, en tant qu'on est détenteur d'une fonction publique.
Bon, alors évidemment, ça veut dire qu'il y a des moments pour la raison publique, il y a des moments où elle n'est pas possible parce qu'on ne peut pas commenter son métier au moment où on l'exerce, etc. Il n'empêche que c'est quand même très audacieux. Oui. Parce que de dire que un soldat peut, quand il n'est pas en fonction, commenter les ordres qu'il a reçus, il n'y a pas beaucoup de pays, même très démocratiques, oui, où cela est si simple. Donc c'est extraordinairement audacieux. Mais il y a quand même un pari. Alors, je ne sais pas s'il veut rassurer Frédéric II ou s'il y croit vraiment. Vraiment, les gens vont raisonner publiquement, Antoine Lilti. Par exemple, quand ils sont très mécontents. Mais ne pas pour autant désobéir en acte. C'est-à-dire, ils vont faire ce avec quoi ils ne sont pas d'accord. Cette discipline, il répète plusieurs fois dans le texte, raisonnez autant que vous voulez, mais obéissez. Cette discipline, elle montre une angoisse chez Kant aussi, vous pensez? Elle nous dit quoi exactement aussi de la situation de ces questions au XVIIIe siècle?
C'est-à-dire qu'effectivement, pour nous, il y a quand même quelque chose d'un peu surprenant dans cette juxtaposition entre une audace, vous l'avez dit, un appel au courage de la prise de parole, du débat intellectuel, d'une totale liberté du débat intellectuel public, et en même temps, ce qui nous apparaît quand même comme une forme de conservatisme politique avec l'idée, bon, Vous pouvez parler autant que vous voulez, du moment que vous obéissez. Et d'ailleurs, Foucault, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ce passage-là l'intriguait beaucoup. Il disait que c'est une sorte de palinodie. Tout d'un coup, Kant fait l'éloge du roi, après avoir prôné la liberté intellectuelle totale. Mais pour bien comprendre que ce n'est pas du tout contradictoire au XVIIIe siècle, c'est en fait l'idéal de la monarchie éclairée, et qu'on retrouve dans toute l'Europe du XVIIIe siècle. Et alors, Kant, plus tard, va un peu évoluer sous la Révolution française, mais à ce moment-là, en 1780, il est tout à fait dans la tonalité d'une grande partie des Lumières, c'est-à-dire l'affirmation à la fois, non seulement il n'y a pas contradiction, mais en fait, les deux sont liés. C'est parce qu'il y a une monarchie puissante qui, justement, est garante de l'obéissance et du bon fonctionnement de la société, que cet espace de liberté intellectuelle à la fois est possible, parce qu'il va être garanti par le pouvoir royal contre ces autres institutions que sont notamment l'Église. Et ça, c'est quand même le grand enjeu. Le pouvoir royal, il est là, et Voltaire dit exactement la même chose en France, Diderot dit la même chose. C'est-à-dire qu'il y a cette idée quand même qu'un pouvoir royal va assurer justement ce que Diderot appelle l'élargissement de la sphère des Lumières. C'est très proche, en fait, du texte de Kant. C'est une liberté d'expression, une liberté de publication qui est garantie, mais à la fois elle est garantie dans son exercice par ce pouvoir éclairé, mais surtout, ce pouvoir éclairé garantit justement que cette liberté ne va pas déboucher sur ce que Hélène a appelé la révolution, révolte, l'anarchie, etc. C'est-à-dire une désorganisation sociale qui serait, à ce stade du progrès des Lumières, c'est-à-dire un stade encore initial, serait au fond une catastrophe parce qu'elle aboutirait à une autre forme de tyrannie. Donc si on veut que ce mouvement se fasse lentement, comme dit Kant, progressivement, oui, il faut à la fois une liberté intellectuelle totale et en même temps un cadre politique et social extrêmement stable. Alors, voilà.
Mais c'est toujours vrai. Aujourd'hui, nous pouvons pester comme nous voulons publiquement, par exemple, à propos de telle ou telle règle fiscale. Ça ne nous exonère en rien du paiement de l'impôt. C'est-à-dire, on obéit à l'impôt, mais on peut le commenter publiquement. Je veux dire, j'ai l'impression que parfois, on s'étonne outrancièrement de cette formule qui est celle qui prévaut aussi pour la liberté d'expression encore dans nos démocraties. On peut dire, mais on ne doit pas désobéir.
Alors, sur la question, par exemple, la question de la désobéissance civile est une question qui, à ce moment-là, voilà, qui n'est pas intégrée. Le cas du soldat à qui on donne des ordres et qui ne doit pas désobéir. Aujourd'hui, par exemple, enfin, il y a on peut se poser la question, est-ce qu'il faut simplement, et il y a dans l'espace public, en tant que savant, effectivement, il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi d'une manière de rassurer, effectivement, Frédéric II en lui disant, c'est un débat qui va concerner les savants en tant que savants devant un public qui lit. N'oublions pas que le public qui lit au XVIIIe siècle, oui, c'est un public relativement réduit encore, et donc qui ne mettra pas en cause. Donc, simplement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans un moment qui n'est pas une pensée révolutionnaire.
Non, Kant n'est pas révolutionnaire. Pas du tout. Il est clairement réformiste.
Donc, il y a à la fois une très grande audace dans la conception de la liberté d'expression, de la liberté du débat public, et en même temps, une forme, effectivement, de réformisme assumé.
On va revenir à cette expression en tant que savant. Non, vous voulez le faire tout de suite, je suis sûre que vous voulez réagir
non,
à ça.
Je voulais juste réagir à ce que vous disiez sur la différence par rapport à notre époque. Elle est indiquée quand même dans le texte de Kant, dans le tout dernier extrait qui a été lu, par cette comparaison qui est étrange dans le texte, puisqu'il dit « le despotisme éclairé, comme disait Antoine, peut dire ce qu'un État libre ne peut oser dire ». Donc il fait quand même la différence entre le despotisme éclairé de Frédéric II et un État libre. Et je pense que la différence, c'est que dans le premier cas, la liberté est concédée. Dans le second cas, dans un État libre est fondé sur la liberté. Donc il y a quand même une distinction entre les deux. Dans un cas, c'est une concession, la liberté. Dans l'autre, c'est une fondation.
Et qu'est-ce qu'il désire, lui, Kant ?
Eh bien, là, c'est, comme vous l'avez dit, un appel à Frédéric II. On est dans un paradigme réformiste, oui, plutôt que révolutionnaire. Donc ici, la tonalité est clairement réformiste. Il s'adresse à
Frédéric II. Il veut un État bien plus libre.
Oui.
Voilà. Alors, vous avez, Frédéric Drault, beaucoup travaillé sur la notion d'obéissance et de désobéissance. là, c'est vraiment à vous que je m'adresse. On parlera de Foucault dans un instant à nouveau. Comment vous lisez ce texte de Kant ? Raisonnez autant que vous voulez, mais obéissez. Est-ce que c'est la norme en matière de liberté d'expression ? Oui, il y a un domaine de l'expression qui est différent de celui des actions. Ou est-ce que c'est un peu naïf de croire que c'est hermétique ?
Oui, non, moi j'aurais tendance à être méchant, et après tout, je crois que
allez-y.
Une certaine méchanceté est le théorique et le béaba de la critique. C'est-à-dire, ce qu'on peut entendre aussi derrière cette adresse, c'est-à-dire raisonner mais obéissez, c'est vous verrez, Frédéric, vous verrez, ils obéiront d'autant mieux que vous les laisserez
Absolument.
S'exprimer comme ils veulent. Et cette espèce de retournement possible, qui n'est pas indiqué par Kant, dessine en tout cas une espèce de ligne de fuite un petit peu dangereuse, c'est-à-dire jusqu'où on va dans l'insistance sur le mais obéissez. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je voulais juste faire entendre ce que dit Foucault à la fin de son premier cours au Collège de France sur Kant, où il dit, vous savez, au fond, Kant cherche quand même un agent qui fait qu'on peut à un moment secouer la tutelle. C'est-à-dire, parce que de toute façon, on ne va pas y arriver tout seul. Ce que dit Kant, c'est que toute façon, c'est une tutelle, c'est tellement bien, c'est tellement confortable, c'est qu'il faut une secousse. Et l'agent, c'est Frédéric II. Et Foucault, à la fin, dit, mais si on prend le texte sur le conflit des facultés, Kant substitue, essayez de voir ce que ça veut dire, substitue à Frédéric II l'enthousiasme révolutionnaire. C'est-à-dire qu'il prend la mesure, qu'est-ce que les Lumières, c'est écrit avant la Révolution française. Il prend la mesure de ce qui se passe dans une Révolution française comme agent de secousse. Et je dis pas qu'il est, ce qui reste réformiste, connaît une tentation révolutionnaire, j'en sais rien. En tout cas, il est sensible. Il est sensible à ça. Il est sensible à cette secousse tellurique qui s'est passée en France et qui fait qu'à un moment, bah oui, l'agent, c'est pas seulement des despotismes éclairés, mais ça peut être ces moments d'enthousiasme qui fait qu'on se met à parler, qu'on s'autorise et que le débat devient public.
Donc Michel Foucault va en effet faire ce lien avec un texte de 1798, donc postérieur à la Révolution française, qui s'appelle « Le conflit des facultés ». C'est vraiment les facs, les universités qui sont évoquées là, Elena Parthen. Et ça crée, un point assez énigmatique chez Kant. Il n'est pas du tout révolutionnaire, il n'aurait jamais incité quiconque à désobéir. Mais après coup, dans l'espace du commentaire à nouveau, des émotions, du spectacle, comme dira Foucault, la révolution apparaît comme un progrès. C'est dans l'après-coup, dans la manière dont on l'a perçu, que cela, finalement, devient clair pour lui ?
Dans l'après-coup, au niveau du temps, en effet, comme vous le dites. Et je dirais, dans la distance aussi spatiale, pas seulement temporelle. Parce que vous savez, ce texte, en effet, qui est peut-être le texte de Kant le plus enthousiaste sur la Révolution française, qu'on trouve dans le Conflit des facultés, où il dit que la Révolution française, c'est le signe du progrès moral de l'humanité. Et en réalité, c'est pas la Révolution française en tant que telle, c'est l'enthousiasme désintéressé des spectateurs de la Révolution française. D'où l'insistance de Foucault sur la notion de spectacle. Donc ça implique une mise à distance et ça implique un caractère public. Donc on retrouve ce qu'il y avait dans ce texte de 1784, c'est-à-dire l'importance de la publicité, du caractère public. C'est plus cet enthousiasme public manifesté dans toute l'Europe de manière désintéressée, parce que du coup, dans le reste de l'Europe, ils ne sont pas acteurs de la Révolution et ils n'ont donc aucun bénéfice immédiat, si je puis dire, à tirer de la Révolution, de l'événement révolutionnaire, mais ça produit un enthousiasme qui fait dire à Kant que c'est peut-être cet enthousiasme public, cette dimension publique qui constitue le véritable signe d'un progrès moral de l'humanité.
Antoine Lilti, il y a quand même une chose évidemment que nous savons et que Kant ne reconnaîtra pas après coup, c'est que pour obtenir la liberté d'expression en droit, il a fallu désobéir et faire la révolution. Et donc il y a un nombre de journaux qui se sont créés sans autorisation. Presque tous les chefs de la révolution, les divers, étaient patrons de journaux. On verra la même chose lors de la Commune, 70 jours. 70 journaux créés, dit-on souvent. Est-ce qu'il y croit lui-même, Kant, au fait que tout le monde va avoir la liberté d'expression sans désobéir? C'est peut-être pas comme ça que ça marche.
Non, c'est sans doute pas comme ça que ça marche, mais disons qu'on voit très bien, au fond, la tension entre dans ces deux textes et la tension des Lumières, au fond, par rapport justement à la question, d'une part, de la liberté d'expression et à la question du progrès, donc progrès moral, intellectuel, social, entre une phase ou en courant, une tentation, effectivement, alors réformisme est lié à la monarchie absolue, lié à cet idéal, donc qui est peut-être sincère et qui est peut-être tactique, qui est lié au fait qu'effectivement, on l'a dit tout à l'heure, mais dans les années 1780, on peut avoir l'impression qu'un certain nombre de monarchies, c'est le cas de Frédéric II, mais c'est le cas de Joseph II en Autriche, etc., sont en train de faire des réformes très importantes et d'accorder beaucoup plus de liberté d'expression. Donc il y a peut-être une partie tactique, il y a peut-être une partie sincère qui est liée à cette idée, effectivement, de stabilité politique nécessaire. Et puis, de l'autre côté, il y a l'autre tentation, qui est une tentation plus révolutionnaire, de transformation, et toute une série... Et Kant n'est pas le seul, parmi les philosophes du XVIIIe siècle, à passer d'une lecture plutôt, effectivement, qui compte sur les monarchies absolues pour le progrès des Lumières, à un enthousiasme pour la liberté révolutionnaire. Condorcet fait presque le même trajet en France au même moment. Et donc, au fond, on peut dire qu'il y a ce double pari possible sur les mouvements historiques qui peuvent amener à la liberté d'expression et au progrès des Lumières.
D'autant que ça n'a pas marché. Hein. Frédéric II ne l'a pas donné. D'ailleurs, Karl Marx, dans les années 1840, reprendra le combat de Kant demandant l'abolition de la censure au régime prussien. Ça ne marchera pas non plus.
Non, mais c'est peut-être une des choses qui, d'ailleurs, fait évoluer Kant. C'est que Frédéric II meurt en 1786 et que le régime qui se met en place est infiniment plus autoritaire et plus dur. Donc, il y a effectivement aussi une désillusion à l'égard des idéaux portés par l'ambition, par les monarchies éclairées.
Passons à Michel Foucault, ce qui va nous faire revenir à Kant. Michel Foucault qui pensait que se jouait dans ce texte de Kant une question majeure, celle du présent en philosophie. Cédons-lui tout de suite la parole. Il y a plusieurs textes de Foucault en commentaire. L'un qui est un extrait de son cours de janvier 1983 au Collège de France, ensuite publié dans le magazine littéraire. Et puis il y a une version en anglais, What is Enlightenment, traduite aujourd'hui. Les versions ne sont pas tout à fait les mêmes. La deuxième date d'à peu près le même moment, 1984, mais nous citerons l'une et l'autre. Écoutez.
La question qui me semble apparaître pour la première fois dans ce texte de Kant, c'est la question du présent, la question de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Et qu'est-ce que c'est que ce maintenant à l'intérieur duquel nous sommes les uns et les autres, et qui définit le moment où j'écris? Et par là même, on voit que pour le philosophe, poser la question de son appartenance à ce présent, ce ne sera plus du tout la question de son appartenance à une doctrine ou à une tradition. Ce ne sera plus seulement la question de son appartenance à une communauté humaine en général, mais celle de son appartenance à un certain nous, à un nous qui se rapporte à un ensemble culturel, caractéristique de sa propre actualité. Ce serait sans doute l'un des axes intéressants pour l'étude du XVIIIe siècle en général, et plus particulièrement de l'Aufklärung, que de s'interroger sur le fait suivant. L'Aufklärung s'est appelée elle-même Aufklärung. Elle est un processus culturel, sans doute très singulier, qui a pris conscience de lui-même en se nommant, en se situant par rapport à son passé et par rapport à son avenir, et en désignant les opérations qu'il doit effectuer à l'intérieur de son propre présent. L'Aufklärung, c'est une période qui formule elle-même sa propre devise, son propre précepte, et qui dit ce qu'elle a à faire. Il me semble que dans cette question de l'Aufklärung, on voit l'une des premières manifestations d'une certaine façon de philosopher qui a eu une longue histoire depuis deux siècles.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Qu'est-ce que les Lumières ? C'est notre série cette semaine. Nous parlons aujourd'hui de la réponse que Emmanuel Kant, en 1784, a donnée à cette question. Qu'est-ce que les Lumières ? Et nous évoquons à présent le commentaire que Michel Foucault au XXe siècle a fait, a proposé de ce texte de Kant. Frédéric Gros, pourquoi cette question du présent change la donne en philosophie, d'après Foucault ?
Elle change la donne parce que elle instaure l'idée que ce qui nous autorise à penser, c'est pas le fait qu'il existe une histoire de la philosophie avec des grands textes qui sont ceux de Platon, Aristote, une tradition, et qu'au fond, il suffirait de se glisser pour, noter des inflexions, reprendre des problèmes, etc. C'est-à-dire, ce qui nous autorise à penser, c'est une convocation, mais cette convocation, c'est la convocation d'un présent. C'est
ça
la
veut dire,
convocation.
Inventons-nous aujourd'hui comme nous le voulons, en laissant les traditions, elles ne vont plus nous définir. Est-ce que c'est ça que veut dire Foucault ?
Ça veut dire que la philosophie doit poser la question de ce qu'il appelle, l'ontologie du présent. Alors bon, l'expression peut paraître un peu curieuse, mais qui signifie que, on ne va pas reprendre la question des caractères de la nature humaine, essayer de refonder une anthropologie, etc. Le problème, c'est qui sommes-nous ? Qui sommes-nous aujourd'hui ? Mais en tant que cette question du « qui sommes-nous » ne relève pas seulement du journalisme, de la mode, etc.
C'est
simplement ressaisir la tessiture historique de notre être en tentant de la reprendre à partir, des lectures. Encore une fois, je crois que c'est ça, c'est cette idée que ce qui nous autorise à penser, c'est l'urgence d'un présent et d'un moment, et qu'il faut arrêter de penser que la philosophie de toute éternité, parce qu'il existe des textes de philosophie, est autorisée à penser. Ça suffit pas, et ça ne forme que des professeurs de philosophie, ça forme jamais de grands philosophes.
Est-ce que vous diriez, Antoine Lilti, que définir ainsi les Lumières comme le moment où on s'est décidé à se penser soi-même au présent, en tant qu'un nous qui cherche à savoir qui il est et ce qu'il veut faire, c'est une bonne définition des Lumières, vous qui êtes historien des Lumières ?
Alors, c'est une bonne définition, c'est une définition partielle, hein, mais c'est une bonne définition. D'abord, c'est un geste quand même assez incroyable de Foucault, parce que ce qu'il fait avec cette définition, c'est qu'il congédie toute une définition traditionnelle des Lumières qui était fondée sur une définition doctrinale. Les Lumières, c'est la raison, c'est l'humanisme amélioré. Il dit les Lumières, ça n'a rien à voir avec l'humanisme, par exemple. Il le dit très clairement. Il dit les Lumières, c'est la raison. Donc, la Lumière, c'est plus la raison, c'est plus spécifiquement la liberté d'expression, c'est plus, même si évidemment il y a ce courage de penser, mais c'est plus une lecture doctrinale, c'est vraiment une réflexivité. Alors celle-ci va avoir toute une série de conséquences, mais c'est une manière de se penser et de se transformer. Donc c'est un geste qui redéfinit les Lumières, qui à mon avis voit quelque chose d'extrêmement important, qui est effectivement cette dimension qu'on ne trouve pas seulement d'ailleurs chez Kant, c'est d'ailleurs presque paradoxal, parce que c'est pas forcément chez Kant qu'on la voit le mieux, mais qu'on la voit chez toute une série d'auteurs depuis le début du XVIIIe siècle, hein, cette idée de geste réflexif, de pensée de ce qu'il y a de spécifique dans le présent. Et c'est aussi une redéfinition de la modernité. Et donc, c'est ça qui est
la modernité, c'est une époque qui se pense comme moderne, amendable. Il y a cette idée d'un...
Et amendable, voilà, c'est amendable, c'est très important.
On peut changer la
cette pensée
choses.
Du présent, c'est pas, hein, Foucault le dit à plusieurs reprises, c'est pas une fascination, c'est pas une admiration pour le présent, c'est au contraire une possibilité de se dire peut-être qu'on pourrait être autrement. Et donc c'est pour ça que c'est une ontologie nous-mêmes, c'est une ontologie critique. C'est-à-dire c'est une capacité justement par la prise de parole et par l'enquête historique d'examiner comment nous pourrions être aussi différents. Donc c'est plus du tout une modernité construite sur le progrès de la rationalité, surtout pas, et en tout cas pas une modernité fière d'elle-même et conquérante, mais une modernité critique, réflexive et d'une certaine manière inquiète.
Les Lumières, l'envie de sortir de l'état de tutelle, comme disait Kant, c'est donc pour Foucault, Elena Parthen, vous êtes spécialiste de Kant, c'est l'attitude critique, le fait que la critique est la reine des Lumières. Alors, sur ce point, je voudrais qu'on revienne à un point évoqué tout à l'heure. cette expression de Kant, on doit pouvoir parler en public en tant que savant, s'exprimant auprès du public qui lit. Je me permets de dire que moi j'ai vraiment l'impression que ce mot savant n'est pas restrictif. En fait, chacun d'entre nous peut être à un moment en position d'être un savant qui va parler. Alors évidemment, à l'époque, au XVIIIe, le public, c'est par l'écrit, mais il me semble qu'on peut le dire aussi avec d'autres supports. Il n'y a pas de restriction, une nouvelle fois, chez Kant. Savant, c'est un peu, il dit « sapere aude », bon ben, osons être des savants, des gens sages, sapérés, qui raisonnons en public. Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord, mais ça pose la question de savoir à qui s'adresse Kant, et Foucault semble dire à tout le monde, en effet, pas seulement aux savants officiels. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture maximaliste de Foucault, dont je viens de dire que c'est aussi la mienne, je reconnais.
Écoutez, je pense que c'est discutable. Encore une fois, il y a deux tonalités chez Kant. Il y a une tonalité qui est en effet plus optimiste et plus radicale sur cet aspect-là, et l'autre qui est peut-être plus timide. Moi, je serais plutôt, comme Frédéric Gros, je serais plutôt pour la deuxième option, c'est-à-dire que c'est quand même une marque d'un certain conservatisme kantien, le fait que ce sont les personnes éclairées, les savants, les professeurs, etc., qui sont appelés à publier, c'est-à-dire à s'exprimer publiquement. Donc, je serais un petit peu moins enthousiaste là-dessus.
Mais en même temps, il faut que tout le monde soit entraîné, il vient de le dire, quand donc.
Bien sûr, mais il y a des instigateurs de ce mouvement.
Oui.
Et ce sont avant tout les savants.
Alors Foucault a envie de lire, Frédéric Gros, que c'est un mouvement radical qui, à terme, produira une situation où chacun, quel qu'il soit, sera dans une attitude critique. Il a envie de lire ça, Foucault.
Il a envie de... C'est très curieux, parce qu'il parle, il parle beaucoup de lui-même, en fait. Il parle beaucoup de lui-même. Quand il dit, quand il reprend le texte de Kant sur la Révolution, ce moment où Kant dit, mais au fond, que la Révolution ait échoué, parce que le texte de Kant, c'est 98, c'est après Thermidor, après le Directoire, après la trahison des grands idéaux de la Révolution française, après la Terreur, etc. Et Kant dit, mais au fond, ce qui était important, c'est pas tant la défaite de la Révolution que l'enthousiasme qu'elle a suscité. Je veux dire, au même moment, il doit régler ses comptes avec ce qu'il a pu dire au moment de la révolution iranienne. Alors là, c'est furieusement actuel. Quand un peuple se révolte contre le Shah, à main nue, c'est le titre d'un article, etc., est-ce qu'on va lui faire la leçon en lui disant « Oui, mais vous savez, regardez ce que ça a donné, etc. » Non, c'est un signe de progrès. C'est un signe de progrès moral. Donc, il faut bien voir que dans cette prise de la parole de Kant, il y a d'abord une manière de régler le débat avec tous ceux qui l'accusent d'avoir soutenu l'ayatollah Khomeini. Je veux dire, aujourd'hui, c'est encore plus fort. Et deuxièmement, et c'est tout à fait lié, une manière de se dire, mais vous savez, moi, je veux dire, dès 66, dans un texte consacré à Cassirer, il dit « Nous sommes tous néo-kantiens ». C'est-à-dire qu'il dit, mais moi, je me situe dans le prolongement de Kant. Arrêtez de faire de moi une espèce d'irrationaliste, espèce de romantisme qui a condamné la raison, le fossoyeur de la grande raison occidentale, ce serait Michel Foucault. Mais Tintin, non, c'est pas nous. Moi, je me situe
simplement. Et puis, il rajeunit Kant, enfin, il le dépoussière.
Il rajeunit Kant, c'est au moment du débat, quand même, avec Habermas. C'est quelque chose qui est très fort. Et il a pris lui-même ces espèces de critiques, d'irrationalisme, de manière... Enfin, il trouvait que c'était terriblement injuste. C'est-à-dire qu'il n'a cessé de développer, justement, les analyses des techniques de gouvernement qui sont des rationalités.
Puis il écoute bien ce que dit Kant dans ce texte, c'est-à-dire il dit, bien sûr, raisonner, mais c'est la question de la pensée, où il n'y a pas que du raisonnement.
C'est
vrai que Habermas, face à lui, a une vision un peu... hyper rationaliste de l'espace public, Foucault va défendre autre chose chez Kant. L'intervention, le courage, les émotions peut-être.
La liberté. Si la racine des Lumières est la liberté, cette liberté de penser doit nous permettre de poser la question de la raison, de la valeur de la vérité, etc. Quand il parle de la reprise des textes de Laufklärung au XXe siècle, c'est un des seuls, dans le texte de 78, c'est un des seuls moments où il dit, regardez, quand on interroge le colonialisme, ça c'est une reprise de l'Aufklärung au cœur de notre présent. C'est-à-dire que tous, inquiéter la raison, poser la question des effets dominateurs de la raison, de la dimension répressive de l'universalisme occidental, c'est faire rejouer pour lui le cœur battant de l'Aufklärung.
Alors, Antoine Litty, vous reviendrez, nous aurons un épisode de cette série consacrée à l'idée coloniale et dans les Lumières, la complexité de ce problème à l'époque. Mais effectivement, Foucault n'est pas contre la raison, il le montre en se référant à Kant, mais il entend que dans l'usage public de la raison, c'est l'expression de Kant, il y a plein de choses. Il y a la vitalité d'un espace public et peut-être pas seulement des échanges, de délibérations argumentées, qui sera un peu, il faut bien le dire, la lecture de Kant par le philosophe contemporain Habermas. Finalement, c'est plus fidèle à ce qu'ont été les Lumières.
Oui, à certains égards, et il y a un double, enfin le contexte dans lequel Foucault écrit ce texte est à la fois effectivement un moment aussi d'effervescence politique. C'est un moment où lui-même, il est engagé depuis longtemps, mais à ce moment-là, il est engagé. Il y a eu l'Iran, mais il y a la Pologne où il défend les droits de l'homme. Donc il est lui-même très, il prend des prises de position. L'origine de ce texte, c'est quand même le début de son cours de 83 au Collège de France, qui est consacré à la parésia, c'est-à-dire à la liberté, au courage justement de la vérité, d'une parole de vérité. Et donc ça, c'est vraiment le contexte, c'est renouer, réinscrire les Lumières dans une histoire de la parole de la parole de vérité, mais d'une parole qui n'est pas... Et c'est là qu'on est très différent de la lecture, effectivement, qu'Habermas faisait de Kant. C'est pas une lecture rationaliste de l'échange d'arguments. C'est le courage de prise de parole individuelle et presque de prise de parole subjective. Et alors, si on veut être un tout petit peu critique, on pourrait dire que quand même là où Foucault à la fois rajeunit Kant et les Lumières et en même temps les tire peut-être vers autre chose,
oui,
c'est dans une dimension presque esthète. En fait, qui est très nette dans le texte, puisque c'est au nom d'une subjectivité et d'une éthique personnelle, d'un rapport de soi à soi, que on va construire cette position qui permet d'intervenir dans le débat public.
Alors oui, esthète, parce qu'il y a une référence extraordinaire. Nous n'aurons pas vraiment le temps de la fouiller ici, mais je me demande ce que les kantiens pensent de ce que fait Foucault. Il rapproche Kant, ce texte de 1784, de Baudelaire en 1863, qui évoque une nouvelle attitude esthétique moderne qui consiste à prendre dans le transitoire, à saisir les petites choses du présent pour en tirer l'éternel en termes de beauté. Et cette attitude critique kantienne à Foucault lui paraît proche de cette attitude esthétique baudelairienne qui consiste à tirer l'éternel du transitoire. Ça doit vous faire bizarre, les kantiens, d'avoir ce genre de commentaires.
Écoutez, moi non, je trouve ça absolument passionnant et je pense que Foucault saisit quelque chose de très profond par ce parallèle dans la vérité de Kant, dans la philosophie de Kant, par cette attention au présent. En effet, on l'a rappelé tout à l'heure, Kant, et d'ailleurs c'est une des histoires légendaires qu'on raconte sur la biographie de Kant, qu'il a arrêté sa promenade au moment de la Révolution française, oui. Ce qui montre une...
Il a changé l'heure, quoi. Il était en retard ce jour-là.
Exactement. Oui. Ce qui montre une attention très soutenue aux événements présents. Et ce que fait Foucault ici, c'est de montrer que la modernité, en effet, qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, qui fait que... le présent, la modernité ne se définit plus de manière doctrinale, comme disait Antoine Lilti, ne se définit pas non plus comme une période simplement temporelle de l'histoire, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'essence dans le rapport au temps, qui n'est pas simplement de cueillir la contingence du présent, mais qui est une saisie des possibilités non advenu à l'intérieur du présent. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le texte de Kant sur la Révolution française, parce que comme le rappelait très bien Frédéric, il dit qu'elle réussisse ou qu'elle échoue, on ne sait pas, mais en tout cas, elle a donné lieu à une possibilité qui vivra à jamais dans l'esprit des peuples.
C'est magnifique cette fin, merci, je suis désolée, c'est la fin de l'émission, mais nous avons ici une Kantienne qui n'est pas du tout choquée par la liberté du commentaire de Foucault rapprochant Kant et Baudelaire. Merci beaucoup à tous les trois, Antoine Lilti, Elena Parthen, Frédéric Gros, les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms, la série qu'il vous propose cette semaine a pour thème le défi de l'intelligence, voici le pourquoi du comment.
Comment reconnaît-on l'intelligence ? À l'heure de l'intelligence artificielle, il peut être intéressant de se demander ce que désigne cette notion d'intelligence. Quand ces machines nouvelles dont nous disposons aujourd'hui, ces robots conversationnels, ces IA génératives, ces chatbots, quand elles répondent à des questions que personne ne s'est posées jusqu'ici et qu'elles arrivent avec les données qu'elles ont à nous donner des réponses nouvelles et parfois utiles, parfois absurdes aussi, qu'on appelle des hallucinations dans le langage de l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, que font ces machines exactement ? Pourquoi le nom d'intelligence nous semble-t-il à la fois adapté et en même temps insuffisant, puisque dans l'intelligence d'un être humain, nous voyons quelque chose de commun avec cette intelligence artificielle et en même temps quelque chose de différent ? Pour le comprendre, il faut se donner une définition générale de l'intelligence qui en même temps correspond à l'apparition de cette notion au milieu du 19e siècle, dans un contexte déjà de théorie biologique et technique, de réduction possible de l'être humain, de la pensée humaine à une fonction du vivant dans son milieu. On appellera alors intelligence la capacité non pas de connaître en général, mais de relier certains éléments de notre expérience pour en tirer quelque chose de nouveau et d'utile pour notre action. C'est ainsi que chez Hippolyte Taine, au milieu du 19e siècle, en France, le premier peut-être à utiliser la notion d'intelligence dans un grand traité de l'intelligence, l'intelligence apparaît comme la faculté humaine de relier des images qui viennent de notre expérience sensible. Ainsi, l'image de la chaleur et l'image du soleil. Et comme chez Hume, nous disons que le soleil cause la chaleur. L'intelligence est la faculté de faire ce lien. Mais pour Hippolyte Taine, c'est une façon totalement empirique, animale, biologique, et qui, d'une certaine façon, peut produire justement des hallucinations. Ce terme est déjà présent chez lui. Comment fonctionne cette capacité de relier des éléments, des données, pour produire du nouveau ? Est-ce que c'est l'ensemble de la conception de la connaissance humaine et que la machine peut alors mécaniser ou reproduire, est-ce que ça n'est pas quelque chose de plus précis encore, de plus fondamental ? Il y a quelque chose d'intéressant dans la théorie que propose ensuite Bergson en 1907 dans l'évolution créatrice. D'un côté, il va mettre dans l'intelligence un fondement plus théorique, plus universel, plus mathématique, qui va aussi permettre de retrouver l'intellectualité. C'est aussi le moment des intellectuels. L'intellectuel, c'est pas juste une machine qui combine, c'est quelque chose de plus, et d'un autre côté, de plus pratique encore. En effet, pour Bergson, derrière notre faculté d'associer des éléments, il y a le calcul mathématique, il y a l'universel, il y a la logique. Et d'un autre côté, l'intelligence pour lui est encore plus biologique que pour Taine ou pour Renan ou pour Proust aussi, qui décrit l'intelligence comme cette petite faculté à la surface de nous-mêmes. L'intelligence est fabricatrice. On reconnaît qu'il y a eu de l'intelligence, qu'il y a eu un humain, quand il y a, par exemple, une machine qui a été fabriquée, une hache ou une flèche, et non pas juste une branche qui reste sur le sable, nous marque la présence de l'intelligence humaine. Ainsi, l'intelligence, c'est une faculté logique et biologique à la fois, logique et donc mathématique et pratique, et d'où l'intelligence artificielle et même intrinsèquement artificielle. Mais n'y a-t-il pas autre chose ? Quand nous disons qu'un être humain est intelligent, n'y a-t-il pas autre chose que cette capacité technique qui définit l'humanité en général et que les machines peuvent reproduire ? C'est tout le défi d'aujourd'hui.
Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être écoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Jean-Guilain Meige. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie. Anna Feulpin, Nassim El-Kabli, Corinne Amar, Victoire Mellet. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.